Bien, passons donc maintenant aux autres questions. L'état du corps pour l'ascension. Donc c'est une question qui est posée par Oasis Do. Ancien fumeur de joint, j'ai rechuté brièvement il y a quelques mois. Je voulais connaître votre avis sur les conséquences sur notre être, essentiellement sur le plan spirituel, et quels sont les moyens efficaces pour réparer les dégâts occasionnés par cette accoutumance. Alors, réparer les dégâts, ça revient à ce que je disais tout de suite avant. Non, on ne peut pas réparer les dégâts. Un mur qui est tombé, il est tombé. Hein? Une ride qui est bienvenue et bien ancrée, tu pourras penser tout ce que tu veux, tu supprimeras pas la ride, parce que ça fait partie de ton apprentissage et de ton expérimentation. La seule façon, c'est surtout de changer ta vibration par rapport à ça, c'est-à-dire ton point de vue. Donc effectivement, les drogues, les joints, etc., sont en fait des méthodes chimiques qui permettent, d'aller visiter les autres dimensions plus rapidement. En clair, eh bien, tu vas aller visiter des dimensions pour lesquelles tu n'es pas consciemment préparé. En clair, toutes les entités et toutes les vibrations que tu as pu rencontrer pendant ces tripes, eh bien, ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu de toi. En clair, tu t'es fait copain-copine avec des trucs, des entités qui ne sont pas forcément tes amis dans le sens bienfaiteur du terme. Donc voilà pourquoi il y a une certaine accoutumance, et je dirais même une dépendance certaine, parce que ces amis qui te veulent du bien, qui veulent te fournir, en fait, on va dire, des moments d'extase et de nirvana, ont besoin de cette énergie pour exister. Comme dirait l'autre, ils piquent dans ton porte-monnaie directement. Donc, on ne peut pas réparer, je dirais, ce genre de choses en disant, bon, écoute, tu m'as piqué 10 000 euros, est-ce que tu peux me les rendre? Ils ne les rendront jamais. Donc, c'est pas la peine d'essayer de réparer. Seul truc qu'on puisse faire, c'est d'arrêter qu'ils piquent dedans. Enfin, dans ce qui reste, dans le porte-monnaie. Donc, une fois que tu refermes le porte-monnaie, eh bien, quelque part, ils vont sentir qu'ils ont perdu un client. Et comme ils auront senti qu'ils ont perdu un client, eh bien, progressivement, elles vont te laisser tomber. C'est-à-dire que l'accoutumance, la dépendance, eh bien, s'en ira. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'une personne essaie de se séparer, je dirais, d'une mauvaise habitude, comme on pourrait dire l'alcool, le tabac, la drogue, bien sûr, les médicaments, enfin, tout ce qui va permettre à d'autres entités, on va dire, de basse fréquence, hein, qui généralement, bien sûr, sont dans le bas astral, eh bien, c'est difficile. Il faut vraiment, vraiment être convaincu d'en sortir. Et donc, cela peut se faire de deux façons, soit par une volonté sans faille, hein, soit parce que comment dire, ton cœur, ta petite voix, te permet de sauter cette expérience. C'est-à-dire que si tu t'es barré en banane, eh bien, en écoutant ton soi supérieur, eh bien, tu peux bien sûr t'en sortir parce qu'il te donnera un surcroît d'énergie et donc de connexion à la source qui te permettra de passer, comme dirait l'autre, dans la cour d'école d'à côté et donc de plus voir les anciens et les mauvais garçons, on va dire. Donc, pour passer d'une mauvaise habitude à une bonne habitude, eh bien, il faut, je dirais, trouver quelque chose de mieux que ce que tu as connu. Donc, par exemple, si quelqu'un fume et ne connaît pas le chocolat, a fait lui goûter du chocolat, il va dire c'est tellement bon qu'en fait, il va laisser tomber la cigarette parce qu'il va trouver que la cigarette, ça n'a pas de goût par rapport au chocolat. Donc, c'est un exemple que je donne, hein, bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on peut effectivement changer de vibration. Donc, en étant en contact avec la 4D, eh bien, tu vas voir que tu vas pouvoir changer de basse-cour très rapidement, parce que en fait, tu vas reprendre, je dirais, ton porte-monnaie en main, quoi. Mais ce qui aura été dépensé aura été dépensé, malheureusement. Les banquiers ne remboursent, enfin, les banquiers, les voleurs, tout ce que tu veux, ne remboursent jamais. Par contre, ça ne veut pas dire que tu es à sec, qu'il ne te reste plus rien. Non, si tu es encore en vie et tu respires, c'est parce qu'en fait, dans le porte-monnaie, il y a encore de quoi faire. Donc maintenant, il suffit simplement de l'utiliser à meilleur escient et de l'amplifier grâce, en fait, à la vibration. Voilà. Donc c'est pour ça que, quel que soit l'état des gens, quel que soit l'état physique, on va dire, de dégradation, on va dire du véhicule, même avec une caisse toute pourrie, ça n'empêche pas de passer la ligne d'arrivée. Qui a dit qu'il fallait avoir une voiture flambant neuve pour passer la ligne d'arrivée? Non. C'est comme un marathon, le principal c'est de passer la ligne d'arrivée. Que tu sois le premier ou le 25 000e, on s'en fout. Le principal c'est d'arriver. Parce que tu auras fait exactement le même effort, premièrement, et deuxièmement, on ressent beaucoup plus de gratitude pour quelqu'un qui en a vraiment marné à mort. Hein, parce que si tu es le 25 000e et tu as mis 24 heures pour faire tes 42 km, on aura plus de considération pour toi, ta volonté et ta fréquence que celui qui aura fait ça en quelques heures. Il n'y a à ce titre donc à avoir aucune considération spécifique par rapport à certains, je dirais, gourous, c'est-à-dire ou de personnes qui ont atteint un certain niveau vibratoire, parce que tout simplement ils étaient entraînés pour et qu'ils n'ont pas fait toutes les conneries. Donc on va dire, ouais, ils ont passé la ligne d'arrivée, ils ont mis que 3 heures ou 4 heures, alors que nous, il nous faudra 24 heures. On s'en fout, parce que c'est celui qui en fait aura mis 24 heures qui aura été le plus méritant dans l'affaire. Donc, ne regardons pas les choses à l'envers. Ne soyons pas dans l'envie quand nous regardons quelqu'un qui avance vite. J'ai dans ma vie rencontré des tas de gens sportivement qui étaient vraiment doués. Bah oui, ils étaient forts. Ils avaient ça, ils étaient bâtis pour ça et ben ils se sont exprimés. Donc, il n'y a pas à se comparer à eux. Donc, ils n'ont pas de mérite particulier. Sauf celui d'avoir été ce qu'ils étaient et d'avoir mis en œuvre les dons qu'ils avaient. Alors, quitter la 3D, le mode parking, une question de Nénuphar. Je souhaiterais un petit approfondissement de ce que tu appelles le mode parking. Ce que je vois autour de moi laisse mon mental dans l'interrogation. La 3D, avec son cortège de préjugés, de craintes et de croyances, est bien présente. Alors, comment rester en relation avec certains préhumains sans être pris pour le clown, l'illuminé ou même parfois le déprimé de service. Quoi faire? Quoi dire? Le sourire du bienheureux suffit-il réellement? Que va-t-il se passer concrètement dans cette 3D pour que le mental ego se calme et laisse la place au cœur? Bah, c'est relativement simple. Quand tu te poses toute cette question, c'est parce que ce que tu es, ce que tu penses être, dépend du regard des autres. Dépend encore du regard des autres. Parce que quand tu t'en foutras du regard des autres, tu n'auras plus qu'une question. Et tant que tu ne seras pas arrivé à cela, le monde du préhumain te semblera toujours dans le style de cortège de préjugés, de craintes, de croyances bien présentes. On s'en fout. Ça, je l'ai compris très tôt dans ma vie. Je devais quasiment avoir, on va dire, 17-18 ans, j'ai envoyé balader tout le regard des autres en me disant, ça c'est pas moi. Il se fie uniquement que des qu'en dira-t-on et de ce qu'ils ont connu de ce que j'étais avant. Mais avant, j'étais en évolution comme tout gamin. J'ai fait des conneries, j'ai raconté des conneries, j'ai menti, j'ai fait toutes les choses que va faire un gamin en règle générale. Et donc je me suis cassé à 19 ans en Angleterre, dans un autre pays, dans une autre langue, où personne ne me connaissait. Et donc j'étais sûr qu'au moins chaque personne qui me regardait avec les yeux de l'ici et maintenant, sans aucun préjugé ou a priori. Et c'est ainsi que j'ai pu découvrir qui j'étais à ce moment-là, quelle était ma véritable vibration, car il n'y avait plus les valises du passé. Ça a été pour moi l'ouverture définitive, je dirais, de l'accès à ce que j'étais, à ce que je ressentais être véritablement. C'est peu dire que quand je suis revenu en France, je me suis foutu complètement de ce qu'il pouvait dire, raconter ou voir. parce qu'ils ne savaient aucunement ce que j'avais vécu en Angleterre et combien j'avais grandi. Depuis ce moment-là, je suis toujours resté droit dans mes bottes par rapport à ma petite voix. Et quels que soient les commentaires qui ont été faits à mon égard, bah je m'en foutais. J'ai simplement avancé, pas contre vent et marée, mais contre tous les ragots et toutes les conneries qu'on pouvait imaginer de ce que je pouvais vivre. Donc c'est clair. Tu quittes cette notion du regard de l'autre et tu verras que tu vas te porter super bien et que tout ce qui vient te vient du cœur, tu le percevras beaucoup plus parce que tu ne regarderas plus dehors ce qu'on raconte sur toi, mais tu écouteras ce qui se passe en toi et ça sera la vérité. Question d'une ado, William. Je ne ressens pas le besoin d'avoir des amis. Je me sens normal, même si je me sens décalé. J'aime les jeux vidéo, les mangas. J'aimerais comprendre pourquoi certains élèves m'insultent et sont repoussés comme des aimants. Pour ma psy, c'est pas normal de ne pas avoir d'amis. Eh bien, ça, c'est la pression sociale. Moi, j'ai pas vraiment d'amis. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je disais ça à des préhumains, je n'ai pas d'amis. Je lisais l'horreur dans leurs yeux. Parce que eux, ils ont besoin d'avoir des amis, parce que ces amis sont des béquilles pour eux, qui ne font que renvoyer, je dirais, le manque de confiance qu'ils avaient en eux à être eux-mêmes. Quand on est soi, quand on est droit dans ses bottes, on se suffit à nous-mêmes. Nous sommes dans notre souveraineté. Nous sommes dans notre présence à nous-mêmes. Et si personne ne rentre en résonance avec, on s'en fout. C'est pas notre problème. La chose fera que tout simplement, au fil du temps, eh bien, les gens qui te fréquenteront auront la vibration, enfin, auront une résonance avec ta vibration. Donc, étant non-fumeur d'origine, comme dirait l'autre, comme tout le monde, eh bien, moi, imaginez que je sois invité, que j'ai des copains qui sortent la clope et qui m'en fument à mort. Impossible. Donc, j'ai des connaissances qui fument, oui. Mais je les vois tellement rarement qu'en fait, à la fin, ben, je les vois plus. Pourquoi? Parce que eux, ils ont peut-être la liberté de s'intoxiquer. Je le respecte. Mais aussi, je me respecte. Et donc, j'ai un choix à faire. Un choix social. Soit j'accepte leur loi, ou soit je suis la mienne. Pour moi, il n'y a pas photo. Je suis la mienne, parce que leur loi, c'est la leur à eux. Qu'ils soient mes frères, mes sœurs, qu'ils appartiennent à la famille, tout ça, cousins, cousines, collègues de travail, rien à battre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein? Donc, si ta psy elle dit que c'est pas normal de ne pas avoir des amis, eh bien, c'est que tout simplement, elle n'a pas compris que pour l'instant, tu es encore entier et que tu n'as pas été encore pollué par soi-disant une socialisation qui n'a qu'un seul but. Faire que tu deviennes une copie. Une copie comme on veut que tu sois. Alors, reste original en étant, je dirais, en accord avec ce que tu es, car tu es unique. Donc, par définition, l'unicité fait que nous sommes seuls avec notre unicité. Donc, se faire des amis, c'est plus par un réflexe de protection et de sécurité et de survie du mode tribal que d'être. Est-ce que tu penses que une entité quelconque en ce monde, quand j'ai en ce monde ou même ailleurs, est-ce que tu penses que des Michael, des Marie, des tout ce que tu veux, ils aient les jetons et ont besoin d'avoir des amis pour être ce qu'ils sont? Ils sont ce qu'ils sont. Elles sont respectées pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils se respectent eux-mêmes. Donc ne pas avoir d'amis n'a aucun rapport avec une fréquence ou, je dirais, un bon état de fonctionnement. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis parce qu'ils refusent d'en avoir tellement ils ont de problèmes. Mais il y en a qui n'ont aucun problème, bien qu'ils n'aient aucun ami. De toute façon, c'est connu. Quand tu seras dans la merde maximale, tu compteras les amis, les vrais, sur les doigts de ta main. Alors pourquoi penser qu'il faut avoir 15, 20, 30, 50? Non. Les amis, les vrais, il n'y en a pas, ou quasiment si peu, qu'il n'y a pas besoin d'aller courir partout pour en trouver. Tu le sauras spontanément. Donc moi, j'ai effectivement quelques amis, je ne les vois jamais, je ne discute jamais avec eux, mais je sais que le jour où je lèverai le doigt et je dirai « aide-moi », ils m'aideront. Mais je ne vais pas les emmerder en disant « on va se voir régulièrement, on va se faire une petite bouffe, et on va sortir au cinéma, etc. » Non. Les vrais amis, ils n'ont pas besoin de socialisation. Parce qu'ils partagent dans la vibration, quelle que soit la distance à laquelle tu vis, quel que soit l'espace-temps, ils seront toujours là. Alors, masculin, féminin en équilibre. Donc, une question de Nan. Comment peut-on savoir si notre féminin masculin est équilibré? Je suis une femme, est-ce que se retrouver avec un homme et vivre des conflits fait partie des signes que je n'ai pas encore trouvé l'harmonie avec mon masculin? Aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre être équilibré entre son masculin et féminin et vivre avec quelqu'un. Il est clair que si tu vis, je dirais, ton masculin-féminin totalement en équilibre, eh bien, tu n'as pas besoin de l'autre pour être. Aucunement. Donc, tu ne peux pas être en conflit. Alors, effectivement, si on peut avoir des conflits avec quelqu'un, on pourrait supposer qu'effectivement, on n'a pas équilibré. Alors pourquoi ne pas en profiter pour se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibre, c'est une possibilité de te rééquilibrer, en fait. L'autre est un miroir. Alors bien sûr, c'est un miroir, mais qui est aussi déformant. C'est-à-dire que le miroir que tu as en face de toi n'est pas parfait. Donc ça veut dire que ce que tu vois, c'est certes une partie de l'image de toi, on est bien d'accord, mais ce n'est pas forcément toute la vérité avec la vérité. Voilà pourquoi le compagnon, l'autre personne avec qui tu vis, doit regarder dans la même direction que toi, mais pas toi. Un couple n'est pas là pour se regarder dans les yeux, il est là pour regarder un objectif commun, qui est comment élever son taux vibratoire. Donc, avoir un conjoint, c'est céder mutuellement à chaque fois que l'un a un genou à terre. C'est pas de se regarder dans les yeux. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Purgatoire ou réincarnation karma? Une question de Sabine. Les religions monothéistes nous ont appris qu'à la mort, le purgatoire sert à revivre ce que l'on a fait aux autres en bien, mais surtout en mal. Or, on dit que la personne incarnée revient pour améliorer et travailler ses côtés sombres en se retrouvant de l'autre côté de la barrière. Ma question est, qu'en penses-tu? Y a-t-il un doublon quelque part ou alors certaines croyances sont erronées? Bon, alors, c'est pas la peine d'aller loin. Déjà, quand on dit que tu vas aller au purgatoire pour, voir ce que tu as fait de bien ou de mal, bah, c'est déjà en pleine dualité. Donc, ce qu'il faut savoir, que ça, c'est déjà une extrapolation 3D d'un préhumain. En clair, le purgatoire n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Comment veux-tu qu'il y ait des juges? Comment veux-tu qu'il y ait des souffrances quand tout le reste de la création n'est que qu'amour, d'une certaine manière, et totalement inconditionnel? Donc la croyance du purgatoire est aussi conne que la grande majorité des croyances qui sont, je dirais, élaborées afin de manipulation de l'être humain. Voilà. Donc, il n'y a aucun doublon. Il n'y a que tout simplement, tout ça, c'est des conneries. Alors, travailler ses côtés sombres. Il n'y a pas de côté sombre. Il n'y a que des côtés que tu as expérimentés et que, bah, d'une certaine manière, il faudra rééquilibrer parce qu'émotionnellement, tu ne l'auras pas bien vécu. Donc, ce qu'il y a à réparer, c'est un blocage énergétique émotionnel. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de grave par rapport à ça? Rien. Donc à chaque fois que nous nous réincarnons, nous essayons de recréer les mêmes conditions afin de voir comment nous allons réagir cette fois-ci. Donc si un jour quelqu'un te crie dessus bien fort et tu te mets à genoux, tu t'accroupis et tu pleures comme une madeleine, t'aurais été surpris. On est d'accord. La deuxième fois, tu diras non, non, mais là, on va recréer la même condition. Et bien sûr, quelqu'un vient et te refait le même scénario. Simplement, cette fois-ci, tu restes debout et tu le regardes dans les yeux. C'est ça la différence. Nous venons nous réincarner afin de revivre des situations et de réagir différemment. Y a-t-il quelque chose à corriger de sombre? Il n'y a rien de sombre. C'est simplement un apprentissage, tout bête. Comment affronter des réactions instinctives basées sur des croyances qui ont été inculquées par le milieu dans lequel nous sommes nés. Donc, quelqu'un qui est né chez les Vikings à une certaine époque, la peur, il ne connaît pas. Parce que bien au contraire, mourir sur le champ de combat ou au combat, c'était ce qu'il y avait de plus glorieux. Alors que d'autres, dès qu'ils voyaient le moindre soldat, ils couraient dans le sens inverse le plus vite possible parce qu'ils avaient peur de mourir. Donc, c'est juste une attitude, un état d'être. Et nous sommes venus pour expérimenter, bien sûr, toute cette palette d'émotions que nous pouvons vivre par rapport à ce que nous sommes. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans l'au-delà pour comprendre ça. Et je dirais pour corriger cela. Maintenant que nous allons passer en 4D, eh bien, nous allons pouvoir regarder et revivre certaines situations d'une manière consciente, et ceci sans passer forcément par le processus de la mort et donc de la réincarnation. Voilà pourquoi toute la grande majorité des peurs que nous aurons, que nous avons eues, seront d'une certaine manière réglées en 4D, parce que quand on arrivera en 5D, bah la peur n'existera plus en tant que telle, puisque nous aurons de nouveau, comment dire, quand je dis de nouveau, nous aurons appris à regarder ce qui est et à comprendre qu'une vibration reste une vibration et que c'est notre façon de la prendre qui va décréter tout le reste. Donc si on la prend bien, tout ira bien. Si on la prend mal, eh ben on verra pourquoi on la prend mal. Là, c'est pas compliqué. Alors, une question de Jean sur les Atlantes. Bonjour Laurent, ma question, que fut la grande faute que les Atlantes ont commise pour que cette civilisation hautement évoluée soit engloutie par les eaux? Et le parallèle que peut en faire avec notre civilisation à nous? Eh bien, c'est simple. Comme d'habitude, quand on sait. Les Atlantes ont fait, ils n'ont pas fait une, enfin, ils ont fait une erreur, si on peut parler d'erreur, parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la civilisation Atlante était effectivement technologiquement et vibratoirement nettement plus avancée que nous. Mais d'un autre côté, dans le cycle évolutif que nous avions à suivre, eh bien, il y avait des zones à explorer. Et la zone à explorer a été celle, je dirais, de l'ego. Dans sa noirceur la plus grande, on va dire. En effet, du temps des Atlantes, le savoir était réparti chez une minorité. On appelait ça les prêtres rats. C'est-à-dire que les prêtres avaient la totalité de la connaissance, pouvaient voyager dans les différentes constellations, et donc étaient totalement au fait de toute la création d'une certaine manière. Et donc, ils avaient à charge le bon fonctionnement de l'humanité. Mais il y avait donc une séparation entre ceux qui savaient et puis ceux qui ne savaient pas, mais qui en profitaient pleinement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la politique, parce que c'est la politique qui a fait tout foirer, c'est-à-dire que sous la férule de dire nous sommes tous égaux, ce qui était vrai, dans le principe, mais faux dans la réalité, aucune âme n'est égale à une autre. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences parce que nous sommes uniques. Donc nous sommes égaux face à l'expérience, mais nous n'avons pas le même CV. Donc, ils ont commencé par un truc très simple et qui a été, je dirais, la raison principale de leur chute. La discussion. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir, à comparer, à juger. Ils se sont dit, si il y a un truc à résoudre, une nouvelle expérience à faire, ou tout simplement à donner à l'humanité, je dirais, un nouvel outil de développement personnel ou une facilité matérielle, eh bien, ce qui va se passer, nous allons discuter entre nous. Et nous allons avoir une critique dite constructive. Et donc, de cette critique constructive, eh bien, ils ont fomenté, on va dire, d'une certaine manière, la séparation. En clair, des individus intelligents ont commencé à dire, oui, mais il y a des êtres ici sur Terre qui ont connaissance et qui font des voyages interspatiaux, alors que nous, nous ne le font pas, nous ne le faisons pas, car nous ne savons pas comment faire. Certes, il nous apporte des technologies, il nous apporte un bien-être, mais nous sommes dépendants d'eux et nous aimerions être autonomes. Donc nous devons mettre une autorité qui va les gouverner afin qu'ils ne nous en tuent pas. Enfin, vous voyez un petit peu le style. Donc c'est-à-dire que une certaine forme d'intelligence mentale, donc le mental ego, a commencé à insérer des séparations, des doutes par rapport au service à autrui total qui était fait par les Atlas. En clair, eh bien, il y a eu, je dirais, des oppositions de plus en plus virulentes entre un service donné gratuitement et inconditionnel de ceux qui, d'une certaine manière, recherchaient le pouvoir. Donc, il y eut, à partir de ce moment-là, un jour, une première scission, on va dire, c'est-à-dire que, eh bien, globalement, une partie des Etlara assoiffés de pouvoir a commencé à utiliser, on va dire, la puissance offerte, mais à des fins égotistes. En clair, il y a eu, on va dire, première bombe atomique, donc premier tremblement de terre, qui commença à foutre le bordel et donc à rompre l'harmonie qu'il y avait dans cette humanité. Ce premier tremblement de terre apporta la création, on va dire, de plusieurs continents, car avant il n'y en avait qu'un, de plusieurs continents, et en fait il y en a eu cinq. Et ces cinq continents se sont retrouvés un peu emmerdés, entre guillemets, car ils ne pouvaient plus communiquer comme avant. En clair, imaginez qu'aujourd'hui, la Chine se sépare totalement du reste du monde, pour des raisons, on va dire, géologiques. L'usine est séparée du reste du monde. Comment va réagir les autres continents qui pourront plus acheter leurs poupées, leurs conneries, enfin tous leurs détails à pas cher? Ils vont avoir un problème. Et puis, d'un autre côté, là où il y avait les centres techniques, qui par exemple régulaient tous les satellites, etc., et qui donnaient donc la formation à la totalité du monde, se retrouvent isolés sur un autre continent. Donc, il y a eu comment dire, un marchandage entre les différentes factions, disant que, oui, mais vous avez les usines, mais nous, on a la technologie, vous avez ceci, vous avez les champs avec le blé, etc., etc. Et donc, ça a commencé à foutre le bordel. Et le résultat, il a commencé à y avoir des révolutions dans certains pays qui n'acceptaient plus que ce qu'ils avaient à pas cher avant, maintenant il fallait qu'ils le payent à des prix exorbitants, etc., etc. Et donc, certains gouvernements ont donc, enfin continentaux, ont donc fait main basse sur la technologie des prêtres rats. Et donc l'ont utilisé au début pour calmer, on va dire, les premières manifestations, en se disant, là où il y a les foyers de colère, si on nettoie un tout petit peu, on retrouvera la paix. Or, ça s'est pas passé. Et donc, les politiciens, pour des raisons dites de sécurité, ont donc mis la main basse, on peut dire, sur toutes les technologies divines, d'une certaine manière, des Atlara. Et donc, eh bien, nous sommes donc la civilisation Atlante s'est autodétruite. Parce que le pouvoir divin, le pouvoir, on va dire, de la matérialisation, a été donné à des individus qui pensaient et qui étaient d'une certaine manière assoiffés de pouvoir. Donc aujourd'hui, notre condition n'est que le pouvoir, on va dire, spirituel et d'accès aux autres dimensions n'est pas donné à une élite. Donc le problème d'ascension que nous avons aujourd'hui est un problème d'ascension dit planétaire. C'est-à-dire, c'est la totalité de l'humanité qui doit avoir accès à cette information et il n'y aura pas de structure, on va dire, d'institutions qui auront la mainmise sur ça. En clair, tous les gens, on va dire, missionnés, c'est-à-dire tous les gens qui ont des capacités et des aptitudes à faire avancer l'humanité, travaillent seuls, individuels, sans faire partie, on va dire, d'une association ou d'une institution, et ils avancent tous dans le même sens. L'objectif est d'émouiller l'intégralité de l'humanité, et non plus de faire une séparation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les gens qui marchent vers la 4D, hein, vers la 4D, 5D, eh bien, ne sont rattachés à aucune institution religieuse ou politique. Car ça a été la principale erreur, on va dire, qui a causé la perte des Atlantes. Donc, comme nous sommes tous des Atlantes, nous avons appris la leçon. Et donc, nous avançons maintenant, individuellement, en groupe, en suivant notre cœur, notre petite voix, et non plus un leader extérieur qui se croit plus intelligent que tous les autres, parce qu'il a été, par exemple, élu par le peuple. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller voir, temporellement parlant, qu'est-ce que ça donne d'être élu par le peuple. Quand on regarde la votation qui s'est faite en France il y a 2 jours, vous imaginez que du côté des Atlantes, c'est ce qui s'est passé tout simplement. On a voulu, par la critique constructive, par la discussion, on a fait croire qu'il allait s'en dégager le meilleur. Or, en fait, ça a été la séparation de plus en plus grande. La loi de l'un n'a besoin d'aucun cerveau supérieur à un autre. Il a besoin seulement que chacun écoute sa petite voix et la suive, quelles que soient les choses extérieures, les opinions extérieures et les critiques extérieures. Voilà pourquoi, en fait, l'humanité arrivera à s'en sortir dans tous les cas, car le peuple, c'est tout simplement l'ensemble de tous les individus. Et il n'y aura aucun intermédiaire. Le peuple Atlante, la technologie du peuple Atlante, la civilisation du peuple Atlante est tombée parce qu'on a cru qu'un mental, qu'un cerveau, qu'une intelligence égotique était supérieure à la loi de l'un. Alors, on parle là maintenant, Serge me demande, concernant le rôle des pyramides. Bonsoir Laurent, j'ai une question par rapport à l'article Pyramides et octaèdres de l'espace-temps dans lequel tu dis les pyramides de Gizeh, par exemple, ne sont que des résonateurs spatio-temporels permettant de connecter au grand Gaïa entre tous les espaces-temps qui la séparent du Soleil central. Cela voudrait dire que quand les pyramides n'existaient pas encore, ou Antar Gaïa ne pouvait pas établir cette connexion, on n'avait pas l'utilité. Bah, disons qu'elle n'en avait pas l'utilité, puisque le cristal central d'Urantia Gaïa est relié au Soleil, qui lui est relié au Soleil central. Donc Urantia Gaïa, en tant que tel, n'a absolument pas besoin des pyramides pour être connecté à la source. Par contre, ceux qui sont venus la squatter ne sont pas venus par les cristaux centraux, hein, on va dire des planètes et des soleils. C'est-à-dire que nous sommes des extraterrestres venant de d'autres constellations qui sommes venus, entre guillemets, vivre et expérimenter à la surface de Gaïa et en accord avec Gaïa. Donc ces résonateurs spatio-temporels sont en fait comme un émetteur, transmetteur entre des civilisations extraterrestres basées, on va dire, dans d'autres constellations et Gaïa. C'est un peu comme les pylônes téléphoniques, enfin les émetteurs, vous savez, pour les téléphones portables. Eh bien, les pyramides simplement sont des émetteurs, mais d'une technologie, je dirais, un petit peu plus avancée que celle, bien sûr, de nos téléphones portables. Donc, il faut faire la différence entre une technologie apportée par une civilisation extraterrestre qui voulait rester en contact, on va dire, avec ses explorateurs de base, avec le cristal central de Gaïa qui, lui, de toute façon, est automatiquement connecté au Soleil et donc au Soleil central. Alors, Colavini, influence de la télé et des lectures. Peux-tu me dire ce qu'il en est des films télé ou cinéma et de la lecture? Lorsque je regarde ou lis, certains passages s'ancrent dans la mémoire et se présentent fortement lors des méditations. Doit-on ressentir encore les vibrations ou bien s'en détacher comme il est précisé sur le site Autre Dimension? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un monde d'interaction permanente d'informations. Alors qu'elle nous arrive par la télé, qu'elle nous arrive par des films, qu'elle nous arrive par la lecture, ce n'est de toute façon qu'un transfert d'informations. Donc ces informations vont forcément, selon leur nature, réveiller en nous quelque chose qui rentre en résonance. Donc c'est à toi de savoir si la résonance qui est, je dirais, réveillée, est propice à l'élévation de ta fréquence personnelle ou à la descente de ta fréquence. Si ça fait descendre ta fréquence, vaut mieux couper tout de suite. Si ça augmente ta fréquence, bah continue à regarder. Ou à lire, ou à ressentir. Donc, il n'y a point besoin de passer par, je dirais, certaines canalisations pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Ressens la chose. Car de toute façon, l'information qui t'est apportée, eh bien, si elle a été faite naturellement, c'est-à-dire que tu as suivi tes impulsions, eh bien, cela veut dire qu'elles correspondent à des choses que tu dois regarder et de faire ressortir ces choses afin de pouvoir te libérer d'une certaine manière, je dirais, de leur emprise. Donc, quand les gens me demandent souvent, mais Laurent, comment tu fais pour canaliser ou quoi que ce soit, ou avoir accès à certains types d'informations, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une certaine manière, je n'achète pas un livre parce que la couverture est belle ou son titre m'attire. J'en ai rien à faire. Simplement, je suis des impulsions et je peux acheter un bouquin et ne jamais le lire. Par contre, je peux tomber sur certaines informations. Enfin, je veux dire, l'information m'est apportée via différents supports. Et c'est pour ça que je reste ouvert à n'importe quel support, même si ce sont des films, qu'ils soient violents ou pas violents, sanglants ou pas sanglants. Qu'il y ait du sexe ou pas, je m'en fous. Je sais que ce qui vient à moi, tant que cela ne perturbe pas ma paix intérieure, est donc bénéfique pour moi. Si par contre ça perturbe ma paix intérieure, alors là je regarde plus précisément et je me dis, est-ce que je continue à regarder parce qu'un message m'est envoyé? Si oui, j'entends la réponse. Sinon, je laisse tomber et je passe à autre chose. Voilà, votre discernement vous appartient et ce n'est pas ce qui est dit dans des canalisations par qui que ce soit. ce soit qui doit guider vos pas. Alors, pensée à créatrice, la vie en 5D de Bidi. Dans la précédente webconférence, tu nous indiques que nous n'aurons plus besoin de manger, plus besoin de nous vêtir, car les températures seront chaudes. Donc si nous ne travaillons plus, sauf bien sûr pour échanger nos services contre des objets. Donc nous ne pouvons plus rien acheter puisque plus personne ne travaillera. On ne pourra pas, par exemple, remplacer son matelas ou son sommier, un canapé, du linge, un cellulaire, etc. Puisqu'il n'y aura plus aucune usine qui les fabriqueront, plus de salariés. Cela revient-il à dire que nous vivrons un peu comme à la préhistoire, question confort. Formidable. Donc c'est une question totalement 3D où la condition du confort matériel prend une place importante. Le premier de tous les conforts est celui de ton cœur. Car quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui est en joie, et qui baigne dans une paix intérieure, se fout d'une certaine manière de savoir s'il va avoir du PQ ou si le ranchiote sera ceci ou cela. En fait, dans la réalité, tout ce qu'il y aura autour sera en accord pleinement avec ce qu'il est. Quand nous regardons une civilisation primitive, est-ce que nous voyons qu'ils ont des problèmes politiques? Est-ce que nous voyons qu'ils ont des armes pour se taper les uns sur les autres? Enfin bon, je ne vais pas faire tout le truc. Mais en fait, plus nous irons vers l'humilité-simplicité, et plus nous verrons qu'en fait, nous allons vivre simplement, mais pas sans confort. Parce que ce confort, si aujourd'hui on a besoin d'un parapluie pour se protéger de la pluie ou d'avoir des fringues pour se protéger du froid, eh bien il faut savoir que quand nous sommes en harmonie, dans un milieu qui sera forcément en harmonie, eh bien il n'y aura pas de pluie, et il n'y aura pas de chaleur, et il n'y aura pas de froid. Ensuite, quand tu diras « Ah bah oui, mais j'ai un sommier et un matelas », tu verras que le sommier et le matelas sera une telle simplicité. J'ai dormi pendant un paquet de temps sur un simple tatami, puisque j'ai vécu au Japon, et le tatami, disons que bon, vous mettez un futon dessus, c'est-à-dire un espèce de petit matelas, mais qui est pas moelleux du tout. Quand vous regardez un oreiller japonais, en fait, c'est quasiment une bûche. C'est sûr que par rapport à nos oreillers, soi-disant de plumes et de trucs, vous ne pouvez pas dormir. Mais comment ça se fait qu'il y ait des millions de gens qui arrivent à dormir avec un oreiller dur comme une bûche? Comment pouvez-vous imaginer que des millions de gens, pour ne pas dire des milliards, dorment par terre, en accord parfait avec la terre, sans pour cela avoir de rhumatisme? Donc c'est notre vision, on va dire, occidentale qui nous fait croire qu'on a besoin d'un lit, qu'on a besoin d'un sommier, qu'on a besoin d'un matelas, qu'on a besoin de draps, qu'on a besoin de tout ça. Moi j'adore aller dormir par terre, dans une simple toile de tente, où je peux respirer la terre. Alors bien sûr, je ne dors pas directement dans l'herbe, hein, parce que c'est humide, on est d'accord. Hein, c'est encore humide. Mais je peux vous dire que entendre la vie, sentir tout ce qui se passe pendant la nuit, parce qu'il n'y a aucun mur, c'est le top. Alors, il y en a qui disent, il faut que je me balade dans la nature pour me connecter à la nature. Mais je peux vous dire que quand vous pioncez en pleine nature, simplement dans une petite toile de tente qui vous empêche d'avoir les araignées qui viennent vous emmerder, les fourmis, tout le bordel, vous savez, un truc minimaliste, avec une bonne couette, je peux vous dire, c'est le nirvana. Mais bon, on découvrira tout ça, mais ça n'a aucun rapport avec la préhistoire. La préhistoire, c'est encore des choses bien lourdes, malheureusement. Mais bon, chaque chose en son temps.